Notre groupe est en train de travailler sur l'alimentation. Et on est en train de chercher des solutions pour un repas plus équilibré et qu'il y a plus de diversité à l'heure de manger. C'est-à-dire, par exemple, dans la zone de la cafette pour les lycéens, on a très peu de choses et faire plus de variété. Il y a seulement un plat végétarien. Ou pour la cantine, tant qu'il y a aussi des menus végétariens, beaucoup. Les jours où il n'y a pas de menu végétarien, les gens ils ont toujours la même chose, comme un burger végétal. C'est toujours la même chose et donc essayer de varier cette alimentation végétarienne aussi.
Et toi, est-ce que tu es végétarien ?
Non. Non, mais...
En quoi justement ce thème te touche ?
Je suis pas végétarien, mais je suis concerné. Je sais que on devrait réduire notre consommation de viande, de penser plus dans notre environnement, puisque justement l'alimentation c'est la première chose qui en impacte, puisqu'on réduit la population des animaux, surtout dans le cas des élevages. Après, on voit les conditions de vie de ces pauvres animaux qui sont enfermés, toujours en train de mourir, presque.
Et alors, comment vous allez faire passer cette information, là, ce projet ?
Elles sont en train de rédiger une présentation pour après, on va aller au proviseur ou les personnes qui sont concernées. Donc, on va leur faire un petit speech de pourquoi on devrait changer et mettre une alimentation plus diversifiée et meilleure.
Est-ce que vous avez fait une enquête auprès des élèves ?
On a fait une enquête dans le domaine des déchets aussi. On a vu qu'il y a beaucoup de gens dans la cantine qui prennent le plat et que la moitié de ce qu'ils mangent ne le mangent pas et le jettent directement dans la poubelle. Il y a ce thème de réduire les proportions de manger. Puisqu'il y a des gens qui veulent manger plus, et il y a des gens qu'avec un plat, c'est suffisant. Et aussi sur les bouteilles d'eau, on a pensé aussi pour proportionner un peu les gourdes donc pour tout le monde, pour que chacun prenne sa gourde et qu'on ne doit pas acheter des bouteilles en plastique qu'on sort de la machine, qu'on achète à la cafette. On a su que dans la cantine des profs...
On a les carafes.
Les carafes, donc c'est parfait. C'est au moins on améliore quelque chose. Bon, maintenant on va voir s'ils vont accepter nos propositions. On espère que oui et que le lycée ait un meilleur visage au public.
Affaire à suivre, merci.
Je m'appelle Alexandre Messens et avec mon camarade Guillaume Joseph, nous allons présenter ce que c'est que le blanchissement corallien, un phénomène assez peu connu, mais qui est très important pour la survie d'un grand nombre d'espèces et d'êtres vivants dans le monde. Premièrement, nous parlerons sur que sont les coraux. Les coraux sont des animaux marins, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ils sont composés d'un ensemble de petits animaux appelés les polypes qui forment des structures qui peuvent être mous ou dures. Pour survivre, les coraux coopèrent avec une algue microscopique appelée la zooxanthelle. On dit qu'ils vivent en symbiose avec cette algue. Et c'est d'ailleurs cette algue qui fait que les coraux aient des couleurs différentes comme bleu ou jaune. Et sans ces algues, les coraux seraient complètement blancs. Ces coraux sont sur Terre depuis plus de 200 millions d'années. Ces coraux agissent comme un refuge contre les prédateurs, un espace pour s'alimenter, pour les différents poissons, et un espace aussi pour se reproduire. Et il est important de voir que les coraux occupent seulement 0,1% de la surface des océans, mais qu'ils accueillent environ 25% de toutes les espèces marines, donc ils jouent un rôle essentiel. Nous observons qu'ils se situent au niveau des tropiques. Qu'est-ce que c'est que le blanchissement corallien ? Le blanchissement corallien est le processus de décoloration des colonies coralliennes. C'est-à-dire que les coraux ils vont perdre ou expulser les zooxanthelles qui lui donnaient ses couleurs. Les zooxanthelles, elles apportent aux coraux des nutriments pour qu'ils puissent grandir et le coraux apporte de sa part du dioxyde de carbone, appelé du CO2, pour que les zooxanthelles puissent aussi se développer. Et c'est en perdant ces zooxanthelles que les coraux vont aussi s'endommager et plus tard finir par mourir. Ce blanchissement corallien affecte généralement les zones peu profondes des récifs, mais on peut voir ses effets sur des colonies qui se situent à plus de 40 mètres de profondeur.
Ce phénomène affecte principalement les coraux durs, mais il peut affecter à d'autres organismes vivant en symbiose avec ces algues, tels que les coraux mous, les anémones de mer, les éponges ou encore les mollusques. Mais quelle est l'origine de ce blanchissement ? Les causes sont majoritairement anthropiques, donc ce sont les actions des humains qui provoquent ce blanchissement. La première cause et la plus importante est le réchauffement climatique, car il entraîne une hausse de température de la Terre et donc une hausse de température des océans aussi. Quand les océans sont plus chauds, ils vont absorber plus de dioxyde de carbone, rendant l'eau plus acide. Et dans un milieu acide, le corail va expulser ses zooxanthelles et donc va blanchir plus facilement. La deuxième cause aussi très importante est la pollution. Et on a aussi la surpêche. Puis après, on peut aussi considérer des causes d'origine naturelle. Mais réellement, ces facteurs n'auraient pas d'importance à moins qu'ils soient aggravés par notre action. Par exemple, nous avons les forts coefficients de marée qui sont un phénomène naturel. Mais avec le réchauffement climatique et donc la montée du niveau des eaux, ce phénomène va s'aggraver. Aussi, avec la surpêche, nous allons tuer et manger les prédateurs de cette espèce d'étoile de mer, les acanthastères, qui vont donc ensuite proliférer et cette étoile de mer va tuer les coraux. Donc, si on tue ces prédateurs, voilà, elle va proliférer, elle va tuer beaucoup plus de coraux. Finalement, nous avons le phénomène del Niño ou la Niña, qui est la seule cause vraiment, vraiment naturelle, mais son impact sur le blanchissement est vraiment négligeable. Donc, toutes les causes ont à voir avec nos activités. Les coraux sont les plus vulnérables. Ces zones sont concentrées au niveau de l'équateur, là où les températures sont plus chaudes et donc là où ils vont blanchir le plus. Tous les coraux partout dans le monde sont en danger. Si avant, il y avait des épisodes de blanchissement tous les 20 ans, de nos jours, on peut s'attendre à en voir des gros, gros épisodes tous les 3 ou 5 ans. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est un danger? Bien, on calcule qu'un quart des poissons ont besoin des coraux pour survivre. Donc, la perte des coraux peut entraîner potentiellement la perte d'un quart des poissons et donc la perte d'un quart des carnivores, de toutes les espèces vivantes dans l'écosystème marin. La mort des coraux a un impact très, très, très fort sur l'écosystème marin. De plus, un tiers des coraux ont déjà disparu de la profondeur des océans et 45% des restants est déjà en train de mourir. Lors du plus grand épisode de blanchissement jamais connu en 2016, 93% de la grande barrière de corail australienne a blanchi et 50% des coraux blanchis sont morts en 2 ans. Donc cela nous donne une vue générale du danger de cette situation.
On arrive aux conséquences qui sont principalement 3. On a premièrement les conséquences écologiques. Donc, avec la mort de ces coraux, il va y avoir des algues qui vont revenir et coloniser cet espace. Donc, avec la perte de ces coraux, on aura évidemment une perte de protection aux différentes espèces marines. Mais les poissons herbivores vont venir et manger ces algues, ce qui va, d'une part, appauvrir la diversité ichtyologique, qui veut dire la diversité en poissons. D'autre part, on a des conséquences sanitaires. Donc, comme j'ai dit avant, il y aura des poissons herbivores qui vont venir manger ces algues. Et entre ces algues, on retrouve une algue spécifique qui est toxique. Les poissons herbivores vont la manger. Puis, les poissons carnivores vont manger les poissons herbivores. Et ça va finir dans nos assiettes. Et nous retrouvons alors un accroissement du risque de l'apparition de la ciguatera, qui est une intoxication alimentaire humaine causée par cette algue. Et finalement, nous retrouvons aussi des conséquences économiques à travers de la baisse des captures des poissons par les pêcheurs locaux, mais aussi quelque chose de très important est l'érosion du trait de côte. Les coraux, ils agissaient comme un protecteur des côtes en diminuant l'effet des vagues. Et là, nous nous retrouvons avec une exposition des côtes face aux vagues et ça va entraîner des disparitions d'îles entières, comme par exemple le cas des Maldives. Finalement, on retrouve différentes solutions possibles, mais qui toutes demandent un réel effort. L'éducation joue aussi un rôle très important, mais ça prend du temps aussi. Nettoyage des océans, c'est aussi essentiel, comme protéger les espaces. Et nous retrouvons aussi développement de résistance chez les coraux, c'est-à-dire en croisant différents types de coraux qui sont plus résistants au blanchissement corallien pour qu'ils ne meurent pas après cet épisode de blanchissement. Et finalement, le coronavirus peut aussi aider face à cette situation. Merci.